Voici le journal d'Adrien Taufollet. Bonjour Adrien.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Avec l'été revient la saison des incendies. 250 hectares ont brûlé hier dans l'Aube, tout près de Narbonne. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement stopper la progression des flammes. On fait le point en début de ce journal. Le deuxième jour de congrès pour le Rassemblement National, qui de Louis Alliot ou de Jordan Bardella gagnera la vice-présidence du parti et à terme la présidence pendant la campagne de Marine Le Pen pour 2022. Dans l'actualité également, les conséquences de la crise sanitaire sur le travail saisonnier cet été, les études d'impact du glyphosate qui ont permis son autorisation en Europe, réalisées par les fabricants de pesticides, le début aujourd'hui des travaux de l'Assemblée constituante au Chili, et puis la massue Pogacar sur la 8e étape du Tour de France hier, chronique du Tour signée Jérôme Cadet à suivre. À 8h20, Eric.
Notre invité, ce sera l'économiste Jean-Joseph Boileau. Il est spécialiste des pays émergents et il signe chez Odile Jacob Utopie Made in Monde. Il sera question de sagesse et d'économie, si possible.
France Inter.
On parle des incendies au Canada et aux États-Unis ces derniers jours, mais en France aussi, l'été est synonyme de la saison des feux dans le sud du pays. Dans l'Aude, 250 hectares de forêt sont partis en fumée hier dans le massif de la Clappe, tout près de Narbonne. Les pompiers depuis ont réussi à fixer l'incendie. Ce matin, le sous-préfet de Narbonne, Rémi Reccio, se veut rassurant. On l'écoute.
Le feu techniquement n'est pas éteint, il est sous surveillance, il est maîtrisé et circonscrit. Il avait été fixé dès hier soir par l'action conjuguée des moyens aériens et des moyens terrestres des pompiers. Ce travail important au niveau terrestre a été poursuivi dans la nuit. Nous avons été aidés par quelques gouttes de pluie très faibles, mais quelques gouttes quand même qui nous ont permis de reprendre la maîtrise assez sereine du périmètre de l'incendie. Nous attendons aujourd'hui une petite bascule météo avec un vent qui soufflera nord-ouest avec des petites rafales autour de 60 km/h. Donc cela requiert de notre part beaucoup de vigilance et encore un gros dispositif sur place puisque ce matin c'est encore quelques 250 pompiers qui sont à pied d'œuvre pour surveiller la progression de l'extinction de ce feu qui, je vous le rappelle, a été très important hier soir. Il faut avoir à l'esprit que si nous avons eu à déplorer 250 hectares, nous savons par rapport au périmètre d'expansion possible de cet incendie que nous avons pu en préserver 800.
Le sous-préfet Rémi Reccio qui répondait à Jules Dequisse, il appelle également les habitants de la région et les touristes à éviter le secteur tout le temps des opérations. Non loin de là, à Perpignan, le Rassemblement National poursuit aujourd'hui son congrès. Congrès, deux objectifs, éteindre l'incendie des régionales, aucune région gagnée par le RN, mais rien n'est perdu, a assuré hier aux militants le numéro 2 du parti, lui-même battu en Ile-de-France, Jordan Bardella. Et puis l'autre gros moment aujourd'hui, la réélection sans suspense de Marine Le Pen, avec à la clé ni changement de stratégie ni changement de ligne, mais la désignation du premier vice-président. C'est lui qui assurera l'intérim quand Marine Le Pen se mettra en retrait lors de la campagne pour 2022, Élodie Forêt.
Deux candidats officieusement en lice, le maire de Perpignan Louis Alliot et l'eurodéputé Jordan Bardella. Deux profils appréciés des militants.
Heureusement que c'est pas moi qui choisis, j'aurais du mal.
Comme Alain, beaucoup se fient à Marine Le Pen pour faire le meilleur choix. D'autres comme Mohamed, enfant de Perpignan, plébiscite Louis Alliot, incarnation de la victoire et du plafond de verre brisé.
Il est le maire d'une ville de 122 000 habitants, vice-président de l'agglo, connu et reconnu. Je pense que c'est le favori numéro un. Il n'y a pas lieu d'aller chercher un outsider.
Quant à Jordan Bardella...
Il a encore du duvet, on attendra un peu.
Jeune, oui, mais ce n'est pas un problème pour Franck, militant du Lot-et-Garonne.
C'est bien, il est dynamique, il sait se battre et se défendre maintenant quand il y a des débats.
Jordan Bardella, une hypothèse qui serait privilégiée par Marine Le Pen, plus disponible. Mais les amis du maire de Perpignan ne perdent pas espoir et tentent depuis hier de persuader la patronne du RN que Louis Alliot saura mieux gérer, avec comme principal enjeu de cet intérim les législatives à préparer. Et l'après 2022, la sensible question d'une éventuelle succession.
Élodie Forêt à Perpignan.
Ceux qui attendent pour se faire vacciner commettent une erreur.
La mise en garde est signée Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui tente de remobiliser dans les colonnes du journal du dimanche face à l'essoufflement de la campagne vaccinale. Tout se joue dans les 15 jours à venir, dit-il, pour échapper à une quatrième vague. Un peu plus de 24 millions de Français sont protégés par deux doses. L'immunité collective passera toujours, selon Alain Fischer, par la vaccination. vaccination des personnels hospitaliers et des EHPAD, vaccination obligatoire. Les conséquences du Covid sur l'économie et le marché de l'emploi, on les voit cet été avec le travail saisonnier. Beaucoup d'entreprises galèrent en ce moment à recruter, tous les secteurs sont concernés, attirer de potentiels candidats. Un sport de combat a pu le constater Adeline Divou à Quimper lors d'une opération séduction organisée par des entreprises.
Tous les secteurs s'accordent sur ce point. La tendance s'est inversée pour les emplois saisonniers, indique Mildred Pénon, chargée de relations entreprises au sein d'Actif, une association dédiée à la formation et à l'emploi.
Il y a des personnes qui viennent travailler et qui sont un peu plus volatiles, qui vont changer d'entreprise un peu plus facilement parce qu'il y a de l'emploi. Ils cherchent la meilleure opportunité, il y a de l'offre d'emploi qui est présente. Avant, c'était les entreprises qui s'accordaient le choix. Aujourd'hui, c'est plutôt les candidats qui s'accordent le choix de quelle entreprise ils veulent choisir aussi.
Et les entreprises font tout pour être les plus attrayantes possibles, comme chez Mère Alliance, Sylvie Picard, la chargée de recrutement.
Les personnes rentrent chez nous en intérim, mais par la suite, il y a des postes à pourvoir, ça peut être des CDD sur du long terme, mais l'intérim, de toute façon, chez nous, ce n'est pas sur du court terme.
Mais au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi le problème de la mobilité. Quand on n'a pas de voiture avec des horaires décalés, c'est le cas de Francky, un Quimpérois qui n'a pas travaillé depuis longtemps à cause d'une longue maladie.
En fait, pour moi, c'est une bonne opportunité de rebondir et de retravailler. Il faut que je travaille pour avoir une bagnole. Galérer peut-être un peu, mais derrière, la récompense est là, quoi.
Et il n'est pas trop tard pour trouver un emploi saisonnier. Vous pouvez encore déposer votre CV auprès des entreprises.
Adeline Divou de France Bleu Brésil. Y a-t-il eu tromperie sur la marchandise? Le glyphosate, autorisé en Europe, est bien souvent pointé du doigt pour ses effets sur la santé. Nos confrères du Monde révèlent que pour la première fois, deux chercheurs ont pu avoir accès à toutes les études réglementaires, celles qui servent de support à l'autorisation du glyphosate dans l'UE. Jusqu'à présent, ces documents étaient gardés secrets et à leur lecture, on comprend vite pourquoi, Célia Quigré.
Les deux chercheurs autrichiens, toxicologues et spécialistes du cancer, estiment que la majorité des 53 études fournies à l'Union européenne ne remplissent pas les critères de qualité attendus. Quelques-unes sont acceptables, mais la majorité sont un désastre, précise-t-il. Or, ces études sont en partie réalisées par les entreprises fabricantes de pesticides. Elles ne sont pas indépendantes. Ce verdict est effrayant pour François Veillerette de Génération Future, une ONG qui milite contre cet herbicide.
Aujourd'hui, finalement, j'ai envie de dire, le masque tombe. On arrive à voir ce que nous, les ONG, comme Génération Future et bien d'autres, on disait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que les études dans les dossiers sont finalement dirigées et de mauvaise qualité parfois. On ne prend pas en compte l'ensemble des données scientifiques disponibles pour juger de la dangerosité d'un produit. Il faut que ça cesse. C'est une question de santé publique, d'environnement absolument majeure. Là, on est face à une situation qui est proprement scandaleuse. Donc la sécurité n'est pas au rendez-vous pour les citoyennes et les citoyens européens non plus.
Il faut donc reconsidérer le système d'autorisation des pesticides en Europe, estiment les ONG. Cette semaine, des chercheurs de l'INSERM en France mettaient en évidence des dommages génotoxiques liés au glyphosate. Cette étude tombe à pic. L'Europe a jusqu'à la fin de l'année 2022 pour étudier la question et décider si cet herbicide sera autorisé ou non les 5 années suivantes.
Ils sont très attendus et il faudra attendre mardi matin pour les 715 000 candidats du bac pour découvrir leurs résultats. C'est cette première édition du bac Blanquer issue de la réforme de 2018. Résultat donc mardi matin, on l'apprend ce matin.
Au Chili, c'est une première dans l'histoire de ce pays.
L'Assemblée constituante, élue démocratiquement, commence ses travaux aujourd'hui avec un objectif de taille, remplacer la constitution héritée de la dictature de Pinochet. Une assemblée inédite par sa diversité, avec de nombreux indépendants, 50% de femmes et des sièges réservés aux peuples indigènes. Précision à Santiago de Justine Fontaine.
C'est le résultat des manifestations de la fin 2019 contre les inégalités. De nombreux indépendants, en majorité de gauche, vont rédiger la nouvelle constitution du Chili. Objectif, mieux garantir les droits sociaux, mais aussi ceux des peuples indigènes et des femmes. Ce dimanche, les membres de l'Assemblée prêteront serment, puis vont élire un ou une présidente. Yennifer Meya, élue féministe lesbienne du nord du pays, est très enthousiaste.
J'ai énormément d'espoir, notamment car nous avons obtenu que cette constitution soit rédigée de manière paritaire entre hommes et femmes, une première mondiale, et je souhaite que cette constitution soit plus proche des idées féministes.
Elle le sait, les attentes des Chiliens sont très importantes, Trop peut-être, selon la politologue Rosana Castiglioni.
Deux tiers des personnes interrogées lors d'un sondage récent étaient convaincues que la nouvelle constitution pourrait résoudre les problèmes liés aux retraites, au système de santé ou au travail. Mais il n'est pas du tout certain que le nouveau texte résolve tout cela.
Malgré tout, une majorité d'élus rejette le modèle néolibéral hérité de la dictature, un modèle encore protégé par la constitution actuelle. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Et n'attendez pas des résultats prochainement. Les débats devraient durer un an au minimum, voire non, au maximum, pardon. Et la Constitution devra ensuite être approuvée par référendum. Nouvelle démonstration de force des anti-Bolsonaro au Brésil, la troisième depuis fin mai hier. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour exiger la démission du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, en difficulté avec la crise sanitaire aux plus de 500 000 morts dans le pays et au milieu d'un scandale judiciaire de corruption dans l'achat de vaccins. Et puis ce matin, un avion militaire philippin s'est écrasé dans le sud du pays. Ça s'est passé au moment de l'atterrissage. On ignore encore les raisons. À son bord, 85 personnes, 15 pour l'instant ont pu être secourues de l'appareil en feu.
8h11 sur France Inter, on part sur la route du Tour.
La 9e étape du Tour de France, aujourd'hui, 144 km entre Cluses et Tignes, dernier rendez-vous dans les Alpes avant une pause bien méritée. Hier, le Slovène Tadej Pogacar a braqué le maillot jaune à l'issue d'une course folle. Le vainqueur de la dernière édition a repoussé les autres favoris à plus de 3 minutes et fait beaucoup parler de lui ce matin. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Dans votre chronique du Tour ce matin, vous revenez sur cette performance de Pogacar qui suscite des doutes. En cyclisme, mieux vaut être vaincu que vainqueur en fait.
Oui, hier le jeune coureur slovène a assommé tous ses rivaux. Le journal L'Équipe a calculé qu'il avait escaladé la dernière difficulté 2 km/h plus vite que l'équatorien Carapaz, qui est pourtant un fort grimpeur. Avec son attaque à 30 km de l'arrivée, Pogacar a tué le tour et relancé les débats sur le dopage. Mon confrère de la radio belge RTBF m'expliquait hier soir que beaucoup de ses auditeurs avaient appelé après l'étape pour exprimer leurs doutes, sans qu'aucun élément factuel, faut-il le rappeler, ne vienne les étayer. Mais le cyclisme vit toujours à l'heure du soupçon et a instauré une sorte de primo perdant. Je vous donne un exemple. L'an dernier, l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma survole le Tour pendant 20 étapes. Son leader, un autre Slovène, Primoz Roglic, est l'objet de toutes les suspicions. Au final, Roglic perd le Tour l'avant-dernier jour et les accusateurs se taisent. Cette année, il chute dès la troisième étape et depuis lutte pour ne pas abandonner. Et voilà que le public apprécie désormais un champion héroïque et généreux qui n'hésite pas à offrir ses bidons aux enfants, ce qu'il faisait déjà l'an dernier. La défaite vous rend sympathique en même temps qu'elle vous lave de tous vos péchés, réels ou imaginaires.
Jérôme Calais en direct des Alpes, merci. La 9e étape du Tour, c'est à suivre à partir de 13h10. L'Euro de football, Italie-Espagne, Angleterre-Danemark. On a maintenant les affiches des demi-finales de mardi et mercredi à Londres. Hier, les Anglais ont fait mal à l'équipe ukrainienne avec une victoire 4-0. Mais face au Danemark, ce ne sera peut-être pas aussi simple. Les Danois sont en train d'écrire une belle histoire de football. Après un début de tournoi très difficile et le malaise cardiaque du joueur Christian Eriksen lors du premier match, l'entraîneur Kasper Hjulmand le sait, on l'écoute.
Je pense que le monde du football a vu ce qui s'est passé juste après et les jours suivants. Les valeurs fondamentales du football ont ressurgi. Je pense encore à Christian tous les jours et nous sommes heureux qu'il ait survécu. Je crois que nous avons tous compris ce qu'était le football et nous en sommes un peu le symbole. Je me dis combien ce serait fantastique de le voir jouer. Il fait d'ailleurs toujours partie de l'équipe, mais je pense surtout que cela montre pourquoi nous jouons au football et ce que le football peut apporter au monde.
Voilà, Kasper Hjulmand au micro de Jean-Pierre Blimaud. Et puis c'est dimanche, jour de Formule 1 aussi. 9e manche du championnat, Grand Prix d'Autriche, terre de l'écurie Red Bull. Son pilote star, le néerlandais Max Verstappen, partira à nouveau en pole position. Sa 3e d'affilée. Derrière, les Français ont un petit peu plus de difficultés. À l'image de l'écurie française Alpine, anciennement Renault Sport, qui s'éloigne des sommets ces dernières années, Guillaume Batin.
Après 8 Grands Prix sur les 23 d'une saison particulièrement longue, Fernando Alonso est 11e, Esteban Ocon 13e sur 20 pilotes, avec respectivement 19 et 12 points, très loin derrière les 131 points du leader Max Verstappen. Alpine pointe à la 7e place du classement des constructeurs sur 10, le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi.
La 7e place, ça me va pas du tout, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être à minima 5e comme l'année dernière. Notre monoplace était un petit peu moins efficace dans les circuits urbains. Et donc on espère justement retrouver des points plus réguliers, on va dire, avec des circuits plus traditionnels, hein, pour retrouver la cinquième place.
Esteban Ocon marque le pas après une série de 4 Grands Prix dans le top 10. Le pilote normand a terminé les 3 derniers au-delà de la 14e place.
Oui, c'est vrai qu'on s'est mieux qualifié récemment qu'on a fini les courses. Il y a plusieurs raisons et puis chaque course a eu ses petites spécificités. Au global, on avait moins de facilité comparé aux autres. On perdait un petit peu plus de performance, surtout le long de la course. Donc ça, c'est la première chose. Après, on sait qu'on doit travailler là-dessus.
Pour les qualifications et la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche, la performance n'est pas au rendez-vous. Fernando Alonso partira en 14e place, Esteban Ocon à la 17e.
Et on leur souhaite de faire mieux, départ du Grand Prix à 15h.
C'était le journal d'Adrien Taufollet. Le temps de ce dimanche.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Une météo comme celle d'hier, Jean-Michel Golinski.
Dans les grandes lignes, les conditions météorologiques s'annoncent pluvio-orageuses aujourd'hui sur la majeure partie du pays. Cette nuit, les averses et les orages ont déjà balayé une partie ouest. Au réveil, on les retrouve de la Normandie à l'Occitanie. Tout ceci va rapidement se déplacer vers l'est, atteignant en journée la Provence, les Alpes, le quart nord-est et la frontière belge, avec des cumuls de précipitations marqués du nord de la Seine au quart nord-est et dans la zone Occitanie, frontières suisses et italiennes. Au fil de l'après-midi, les régions de l'ouest vont retrouver un temps plus calme avant l'arrivée de nouvelles pluies ce soir par la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Le tout dans les températures en baisse avec 19 à 24 degrés sur une large moitié nord et dans le quart sud-ouest, 25 à 28 autour de la Méditerranée, 29 sur la Corse où là le temps sera plus sec et le soleil plus durable qu'ailleurs.
Jean-Michel Golinski, Météo France.